Chapitre 2. Dans le livre que Catherine dicta vers la fin de sa jeunesse, qui fut en même temps la fin de sa vie, et où, à l'exemple de Colombini, elle écrivit son cœur, le Seigneur répond ainsi aux questions de son épouse. L'âme qui m'aime véritablement aime aussi son prochain, car l'amour que l'on a pour moi et l'amour du prochain sont une seule et même chose, et la mesure de votre amour pour le prochain est celle de votre amour pour moi. Tel est le moyen que je vous ai donné de prouver et d'exercer votre amour envers moi. Vous ne pouvez m'être utile en rien, tandis qu'il vous est possible de venir en aide au prochain. L'âme amoureuse de ma vérité ne se lasse jamais de se dépenser au service des autres, tant en général qu'en particulier. D'ailleurs, longtemps avant l'apparition de Catherine, Sienne avait compris le précepte évangélique « Ce que vous ferez au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi-même que vous le ferez. » En 1186 déjà, une bulle pontificale fait mention du grand hôpital Santa Maria della Scala que la République avait fait construire en face de la cathédrale et qui comprenait à la fois une infirmerie, un asile d'enfants trouvés et une hôtellerie pour les pèlerins. De plus, les pauvres de la ville étaient nourris à cet hôpital. Or, ce n'était ni la ville ni la commune qui fournissaient les moyens de pourvoir à ces diverses charités, et ce n'étaient pas non plus des infirmiers salariés qui assurait le service à l'intérieur de ces murs hospitaliers. C'était une confrérie libre dont les membres vouaient leur personne et leurs biens aux soins des pauvres et des malades. Ceci peint bien les coutumes du Moyen Âge et le règlement de ce grand hôpital, qui date de 1305 et qui nous a été conservé, mérite certes de retenir quelques instants notre attention. Il commence ainsi. À la gloire et à la louange de Dieu, en l'honneur de tous les saints et de toutes les saintes du ciel, à la gloire et à l'exaltation de la Sainte Église romaine, en même temps que de la ville et du peuple de Sienne, ainsi que pour le bon entretien et la prospérité de l'hôpital de Notre-Dame de Sienne, lequel est situé vis-à-vis de la cathédrale. Pour le recteur, les frères et le chapitre dit hôpital, et pour le soulagement des pauvres, des malades et des enfants assistés par cet hôpital. Voici les ordonnances, prescriptions, arrêtés et règles déterminées, coordonnées et adoptées par le recteur et les frères du dit hôpital. Règles auxquelles doivent se plier les frères et les sœurs, aussi bien que les frères laïcs et les subalternes du dit hôpital. Règles suivant lesquelles hommes et femmes doivent vivre et auxquelles ils doivent conformer leur existence. On insiste tout spécialement sur le devoir suprême d'aimer et d'honorer Sienne, de la servir de toutes ses forces et de ne jamais frustrer la commune de Sienne au profit du dit hôpital. L'amour de la patrie, de la grande cause commune, doit être placé au-dessus de tout intérêt, même de celui des pauvres et des malades. Puis viennent d'autres prescriptions qui, réunies ensemble, constituent comme le règlement d'un couvent. Un chapitre fixe l'heure à laquelle doivent se lever les frères et décrète que tous sont tenus d'assister à la messe dans la chapelle de l'hôpital et d'arriver au plus tard avant que le corps du Christ soit élevé. Et si quelqu'un d'entre les frères s'y soustrait sans excuse valable, il ne lui sera servi ce jour-là que du pain et du vin qu'il devra prendre au réfectoire à l'heure du repas des autres frères et il lui sera interdit de manger rien d'autre. De même, les frères ont l'obligation de prendre part à l'office du soir et de réciter les complies. En dehors de la cloche de la chapelle, il en existe une autre qui donne aux frères le signal de servir les repas des infirmes. Et chacun des frères est obligé de porter sur lui un couteau rond destiné à couper le pain et les autres aliments des malades. Quand ceux-ci ont terminé leur repas, les frères prennent le leur sous la présidence du recteur. Nul n'a le droit de parler à table, mais on fait une lecture à haute voix. Sans motif sérieux, personne ne peut prendre aucune nourriture ailleurs qu'au réfectoire, ni dans le dortoir, ni dans une cellule, ni même dans la cuisine. Et le cuisinier et son aide ont le devoir de dénoncer au recteur tous ceux qui mangent ou boivent quoi que ce soit à la cuisine, bien qu'il y ait exception pour eux-mêmes. Aucun des frères ne doit accepter de présence sans la permission du recteur, afin qu'il n'y ait pas de distinction entre eux, et tous doivent manger et boire les mêmes choses au réfectoire. Toute une série de chapitres traite des fonctions des dignitaires de l'hôpital qui, en dehors du recteur, sont deux majordomes ou maîtres d'hôtel qui veillent au service de table et au bon ordre des réfectoires. Le vice-recteur qui, en l'absence de son supérieur, prend la direction des affaires urgentes. Un infirmier dont la tâche consiste à procurer tout ce qui est nécessaire pour lutter contre la maladie et ramener la santé. Un pellegriniero qui reçoit les malades à leur arrivée et veille à ce qu'on leur témoigne les égards auxquels ont droit les malheureux. Enfin, un camarlengo, l'économe, et son secrétaire, le clerc, qui est chargé d'inscrire tous les bénéfices dans un livre à part et toutes les dépenses dans un autre. Chaque mois, le camarlengo fait un rapport au chapitre, composé de tous les frères réunis sous la présidence du recteur, où toutes les questions douteuses sont résolues par le vote. Il y a bien entendu une foule d'employés secondaires sous les ordres de ses principaux personnages, entre autres le frère qui est préposé à recevoir le foin, le blé et les légumes dont l'hôpital a besoin et à les mettre en sûreté dans les greniers. Il doit noter d'où viennent ce foin, ce blé et ces légumes et quels en sont les donateurs. Et tous les ans, à la fête de la Toussaint, il doit donner lecture de son cahier au chapitre afin que le recteur et les frères sachent qui sont ceux qui, au cours de l'année, ont fourni des légumes et du fourrage à l'hôpital. Les greniers doivent être pourvus de deux serrures différentes, afin que chacune de ces serrures ne puisse s'ouvrir et se fermer qu'avec sa propre clé. Et deux des frères de l'hôpital sont choisis pour garder sur eux ces clés. Aussi est-il impossible à chacun d'eux de mesurer du blé ou de prendre du foin ou des légumes sans l'autre frère. Tous deux doivent mesurer le fruit, le blé, ou prendre du foin ensemble, selon les besoins de l'hôpital, en notant ce qu'ils prennent ou font charger dans le livre qui se trouve à la caisse, chez le camarlengo, ainsi qu'il a été dit plus haut. Avec une aussi touchante longueur, la règle donne encore une foule de détails quant à l'emploi de la farine, la cuisson du pain et l'entretien des animaux, à savoir les chevaux, les mules et les ânes, et prescrivant à ceux qui les soignent et les conduisent tout ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait de défaut ni dans les selles et les rênes, ni dans les mors et les fers. En lisant ces multiples ordonnances, on entrevoit un monde naïf et fort où tout était profond et vrai, et qui se trouve bien loin de la réclame, du clinquant et des dehors flatteurs du monde moderne. Le spirituel ne le cède en rien au temporel. Tous les prêtres sont affectueusement requis par le recteur et par les frères d'entendre les confessions des malades et de leur donner l'absolution et une pénitence. Ces mêmes prêtres auront encore l'obligation de donner aux malades le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que de leur administrer tous les sacrements de la Sainte Église s'ils les sollicitent et que cela leur paraisse opportun. Ils doivent remplir ce ministère avec une grande prudence. De même, les infirmiers ne doivent pas négliger de recommander aux malades de confesser leurs péchés et de recevoir les sacrements de l'Église. On peut dire que tout est prévu dans les 61 chapitres qui composent ces statuts. Depuis l'hospitalité et le bien-être à procurer aux vieillards et aux pauvres de la ville de Sienne et des environs, jusqu'aux défenses faites aux frères de boire ou de manger en dehors de l'hôpital et de s'asseoir quand ils sont chez des laïcs. Ordre leur est donné de s'acquitter debout de leur message. Il leur est interdit de quitter l'hôpital sans l'autorisation du recteur. Cependant, il leur sera permis d'aller jusque chez Viviano d'Arrigo, chez Celle del Travala et jusqu'à la cathédrale. Les frères et les sœurs avaient des appartements séparés et les frères, à l'exception du prêtre Hugo, ne pouvaient se rendre dans ceux des sœurs qu'avec la permission du recteur. Sans cette permission, aucun des frères ne pouvait non plus se promener dans les sections de l'hôpital réservées aux femmes. Seul, frère Lupo a le droit d'aller voir sa fille. L'hôpital de la Scala s'élève aujourd'hui encore à Sienne. Sa façade gothique de pierre et de briques forme l'un des côtés de la merveilleuse place de la cathédrale, qui, dans sa tranquillité et sa paix, ressemble à un vaste cloître. Dans toutes les rues de la ville, on trouve des immeubles portant l'insigne de l'hôpital. Une échelle, Scala, surmontée d'une croix. La vieille salle voûtée qui servait de dortoir aux pèlerins est intacte. Et les fresques de Domenico Bartoli, datant de 1440, nous font revivre la vie qui a été vécue ici il y a 500 ans. Elles représentent les frères de l'hôpital distribuant des aumônes aux pauvres et aux pèlerins, ces derniers reconnaissables aux coquilles attachées à leurs vêtements. Les infirmes se retirent après avoir reçu leur part. Un homme, complètement nu, revêt un habit. Une femme portant un enfant dans ses bras et en tenant un autre par la main reçoit des provisions. Un frère qui entre a sur le dos une hotte d'enfants trouvés. Un peu plus loin, on marie des jeunes filles orphelines auxquelles l'hôpital fournit des trousseaux. L'une de ces fresques nous montre une salle où l'on soigne les malades. Au milieu du tableau se trouve un homme à demi nu, assis sur un banc recouvert de coussins. Sa jambe droite présente une plaie hideuse et profonde. On est en train de lui laver les pieds. Un homme âgé, au visage anguleux et fin, agenouillé devant lui, essuie son pied gauche. D'autres personnages érudits, au moins une demi-douzaine, interrogent le patient avec inquiétude et délibèrent entre eux sur son cas. Là-bas, à droite, vit un malade alité. Sa tête est enveloppée et son visage jaune et barbu est enfoui jusqu'aux oreilles sous une couverture rouge rayée de jaune. Il semble que cet homme vienne d'être administré il y a peu de temps. En tout cas, un frère Augustin qui se tient près du lit, un pied posé sur le banc, remet un livre dans son étui. Au-dessus du chevet du malade se trouve une tablette chargée de boîtes de pharmacie et de flacons clairs. On aperçoit au premier plan un lavabo en métal avec un essuie-main blanc à dessin noir. Deux serviteurs, dont l'un porte à sa ceinture un trousseau de clés, apportent un plateau sur lequel on distingue un objet couvert, sans doute le repas du malade. Du côté gauche de la fresque, derrière le banc sur lequel est assis le blessé, on entrevoit la moitié d'un lit. Une sœur de l'hôpital, dans sa robe blanche, un bonnet carré sur la tête, est occupée à y déposer lentement et avec précaution un malade. Deux médecins se tiennent debout auprès de ce lit et l'un d'eux tend à l'autre un vase d'urine pour l'analyser. Les murs de la salle ont l'air d'être tapissés de peaux de fourrure grise. À travers une belle grille de fer forgé, on peut jeter un coup d'œil sur une autre salle, où des médecins inclinent leur profil pâle sur la couche des infirmes, où sont réunis en conseil. L'ensemble produit une impression de bien-être. On constate que rien n'est épargné pour le bien des malades. Dans le monde civilisé tout entier, peu de villes possédaient en 1840 un hôpital municipal, qui put être comparé à celui de Sienne en 1440. Et encore, La Scala n'était-il point le seul hôpital de la cité? Nous lisons dans l'histoire de Giovanni Colombini comme quoi sa femme et son ami Francesco Vincenti le cherchent d'abord au grand hôpital, puis dans plusieurs autres, et finissent par le trouver dans un misérable hospice éloigné où, ce qui paraît peu hygiénique, les malades se régalaient de polenta. Les Monteiate exerçaient l'office des gardes-malades à l'hôpital de Campo Regi. Hors de la ville s'élevait encore San Lazzaro, hôpital des lépreux. C'était à Sienne une vieille coutume chrétienne que de soigner les malades et les pauvres, et Catherine suivit les traditions de sa ville natale. De la fenêtre de sa chambre, raconte Caffarini, elle aperçut un jour un mendiant à demi nu qui s'était endormi à l'angle de la rue. La vue de cette détresse l'émut profondément, mais comme c'était précisément l'heure canoniale, elle quitta la fenêtre et se mit à réciter son office. Cependant, entre les lignes noires des versets des psaumes et derrière les petites images des saints se détachant sur un fond doré qui ornementait les initiales, elle apercevait toujours le pauvre étendu dehors contre une borne. Et finalement, n'y pouvant plus tenir, elle ferma le livre, s'en fut chercher un pain à la cuisine et se glissa furtivement dans la rue pour le déposer sans être vue près du dormeur, afin qu'en ouvrant les yeux, il put supposer qu'il lui avait été apporté par les anges. Mais l'homme était déjà éveillé, et quand Catherine arriva près de lui et lui demanda si elle ne possédait pas quelques vieux habits pour le couvrir. Tout d'abord, Catherine n'entrevit aucun moyen de lui en procurer. Ainsi qu'elle l'a déclaré plus tard dans une circonstance analogue, elle préférait se priver de son manteau que de manquer de charité envers le prochain. Aussi donna-t-elle au malheureux le manteillo noir du tiers-ordre qu'elle était si heureuse et si fière de porter. Mais la nuit suivante, Jésus lui apparut et lui dit: Ma fille, aujourd'hui tu as couvert ma nudité. C'est pourquoi je te revêts à présent de la plénitude de ma grâce. Et à partir de cette heure, Catherine n'eut plus jamais à souffrir du froid. Même au plus fort de l'église, de l'hiver, elle pouvait sortir très légèrement vêtue. Or, l'hiver est rude à Sienne. J'écris ces livres, ligne, un jour de janvier. Il gèle à 5 à 6 degrés et tout le monde se promène enveloppé de fourrure, avec de grands cache-nez de laine autour du cou. On rapporte une foule de traits de ce genre touchant Catherine. Une fois, un mendiant vint la trouver à l'église et comme elle n'avait rien d'autre sous la main, elle lui remit la petite croix d'argent suspendue au cordon de son chapelet. De nouveau, Jésus se manifesta à elle par une apparition nocturne, tenant dans sa main la croix qui était devenue fort belle et qui étincelait de pierreries. Ces pierres précieuses, lui dit le Sauveur, signifient l'amour avec lequel tu m'as fait l'aumône de cette croix. Je te promets qu'au dernier jour, quand le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tu verras cette croix pour ton salut et non pour ta condamnation. Mais Catherine jugeait que ce n'était point assez de donner quand on l'en priait et de ne pas détourner l'oreille de ceux qui la sollicitaient. Elle se mettait encore à la recherche des indigents. Pendant que tous dormaient, elle allait déposer devant leur porte un pain, un fiasco de vin et un sac de farine ou une corbeille d'œufs, ainsi que le faisait jadis Saint Nicolas de Bari, et s'enfuyait sans que personne se fût douté de sa présence. Un jour, elle fut bien près d'être découverte, car elle ressentit tout à coup le point de côté qui la tourmentait souvent, et cette crise fut si forte qu'elle ne pouvait plus se mouvoir. Les habitants de la maison s'éveilleraient avant peu et la surprendraient dans l'exercice de sa charité. Alors elle s'adressa à son époux céleste. Est-ce ton intention que j'aie à rougir devant les hommes? Lui demanda-t-elle. Viens donc à mon secours afin que je puisse rentrer chez moi sans être vue. Puis elle dit à son corps: Il faut que tu bouges d'ici, quand même tu devrais en mourir. Et en rampant plutôt qu'en marchant, elle atteignit la demeure du teinturier près de Fontebranda. Son père l'avait pleinement autorisée à prendre tout ce qu'elle voudrait dans la maison pour les pauvres. Mais les autres membres de la famille n'étaient point du même avis. Ayant observé qu'un jour, Catherine s'était emparée d'une chemise appartenant à la servante, ils gardaient leur tiroir soigneusement fermé à ces pieuses investigations. Et pourtant, la bienfaisance de Catherine était visiblement bénie. Le vin dont elle prenait pour les pauvres avait meilleur goût que l'autre et faisait plus de profit. Il y eut même un tonneau qui ne se vida qu'après de longs mois, bien que Catherine et l'appât vinssent l'une et l'autre y puiser en toute liberté. Et lorsqu'arriva le temps de la vendange, ce tonneau fit défaut pour la récolte du vin nouveau. On se souvient aujourd'hui encore à Sienne de ce baril inépuisable, la botta di Santa Catarina. C'est ainsi que Catherine védissait les misérables, donnait à manger aux affamés et désaltérait ceux qui avaient soif. Se souvenant aussi de cette parole « J'étais malade et vous m'avez soigné », elle fréquentait l'hôpital de Camporeggi, situé près de San Domenico, à l'endroit où s'étend actuellement la Via del Paradiso, et soignait les malades à la Scala. Elle s'attardait parfois si longuement à ce grand hôpital qu'il lui était impossible de rentrer chez elle le soir même. En ce cas, elle passait la nuit dans une petite chambre qui se trouvait au fond d'un vrai dédale. Cave, corridor, escalier, crypte. Non loin de la grotte où San Sano disait la messe pour les premiers chrétiens. C'était là son lieu de repos. On y montre encore aux étrangers une étroite petite cellule ordée d'une statue la représentant dans l'attitude du sommeil, devant laquelle brûle perpétuellement une lampe. Des petits cœurs d'argent brillent dans la niche au-dessus de la tête de la dormeuse, et ces simples paroles expriment la pensée de Catherine. « Mon père, que je dorme ou que je veille, que je parle ou que j'écrive, je suis à toi, je me meus et vis en toi. » Quand Catherine passait la nuit à l'hôpital, c'était aussi pour être toute proche si l'on avait besoin d'elle. Souvent, elle prenait la garde et veillait durant les heures les plus pénibles, dit Caffarini. Elle soignait avec une tendresse toute particulière les malades les plus atteints, surtout ceux qui avaient un caractère difficile. Au nombre de ces derniers se trouvait une femme qui, après avoir vécu sans foi ni loi pendant plusieurs années, venait d'être recueillie à l'hôpital. Naturellement, rien n'y était assez bon pour elle. Elle se mettait en fureur et se lamentait tour à tour, pleurant de compassion sur elle-même et sur son sort, ou bien lançant violemment sa nourriture à la tête des gardes-malades. Il n'était guère prudent de lui parler religion, car elle l'écumait de toute la haine qu'une femme sensuelle peut ressentir pour Jésus-Christ. Catherine s'approcha de cette âme plongée dans la matière. Elle commença d'abord par préparer des mets à la fille de joie, et ayant réussi à la satisfaire sur ce point, essaya encore lentement et avec précaution de réformer les tendances de son esprit. Nous ignorons ce que l'épouse du Christ peut avoir dit à sa malheureuse sœur en Ève à l'hôpital de Sienne, mais nous possédons une lettre adressée par Catherine à une époque ultérieure de sa vie, à une pécheresse de Pérouse, et dont le ton est évidemment le même. Elle y emploie des termes expressifs. « Il me semble que tu fais comme le pourceau qui se vautre dans la frange », écrit-elle, et elle lui prédit avec une insistante pénétrante la mort, le jugement, l'affreuse éternité chez le diable. « C'est le feu qui t'attend, l'odeur du soufre, les pleurs et les grincements de dents, un froid glacial, une chaleur atroce et les remords brûlants d'une mauvaise conscience. » Mais ce ne sont là que les préliminaires de la lettre. À l'éclat des trompettes, la grande pédicatrice fait succéder d'autres accents. Vox humana, vox angelica. Des accents purs et argentins qui atteignent à des sommets de resplendissante lumière et contraignent l'âme la plus noire, la plus endurcie, à éclater en sanglots en les écoutant. Avec mansuétude, Catherine évoque le souvenir de la pécheresse de Magdala, du baume dont elle oignit les pieds du Sauveur dans la maison du pharisien et du sang de Jésus qui en récompense ruissela sur elle lorsqu'elle s'agenouilla ensuite au pied de la croix sur le Golgotha pendant les 3 terribles heures. Et après, elle l'amène doucement devant le trône de celle qui allaitait Dieu lui-même. Marie montrera à son fils le sein qui la nourrit et lui demandera grâce pour toi. Réfugie-toi alors dans les blessures du Fils de Dieu. Plonge-toi tout entière dans le feu de l'amour qui consumera tous tes péchés et toutes tes misères. Il t'a préparé un bain dans son sang pour te purifier de la lèpre du péché et pour effacer tes souillures. Cesse d'être un membre du démon qui se sert de toi comme d'un piège pour prendre les créatures. Aime le crucifié et songe que tu mourras à un moment que tu ignores. Demeure dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je n'en dis pas davantage. J'ajoute seulement pour terminer, doux Jésus, Jésus amour, Marie, notre douce mère. Peut-être Catherine n'obtint-elle rien, ni de l'une ni de l'autre de ces infortunés. Peut-être ne récolta-t-elle que le mépris en guise de remerciement. Il arrive souvent que les malades soient saisis de haine contre ceux qui les soignent, et Catherine en fit plus d'une fois l'expérience. Ainsi, à l'hôpital des lépreux San Lazzaro, hors la Porta Romana, se trouvait une femme âgée nommée Teca, absolument délaissée de tous. Catherine entendit parler d'elle et avec son courage habituel entreprit de la soigner, ce qui, pour l'âme délicate et poétique de François d'Assise, avait constitué le suprême effort et la victoire décisive sur lui-même et avait déterminé en lui l'éclosion d'une vie nouvelle, parut chose toute naturelle à la vaillante jeune fille de Fontebranda. Elle voyait son époux dans cette lépreuse, écrit Raymond, et c'est pourquoi elle la servait avec assiduité et déférence. Mais il en résulta que la malade devint orgueilleuse et ingrate, ce qui se produit fréquemment chez ceux qui ne sont pas humbles d'esprit. Ils s'enorgueillissent et se montrent exigeants au lieu de témoigner la moindre reconnaissance. Lorsque cette infirme vit Catherine se dépenser avec tant de zèle à son service, elle se mit à réclamer comme une dette ce qui lui était offert par charité et à injurier sa garde malade, comme une servante quand tout ne marchait pas à souhait. Par exemple, si Catherine arrivait à l'hôpital plus tard que de coutume, elle l'accueillait avec des sarcasmes de ce genre. « Soyez la bienvenue, reine de Fontebranda. Où la reine s'est-elle attardée ce matin ? À l'église des frères, n'est-ce pas ? La reine a passé toute la matinée chez les frères. » Il semble que la reine ne puisse jamais se rassasier de la société de ses moines, etc., etc. Patiemment, sans mot dire, Catherine s'empressait de tous côtés dans la petite chambre étouffante et malodorante pour préparer un bain, sans cesse bombardée de railleries par la vieille qui, du fond de son lit, la suivait d'un regard haineux et moqueur. L'appât fut sans doute avisé du peu de reconnaissance qu'obtenait sa fille en retour de ses œuvres de charité, car elle tenta de s'interposer. « D'ailleurs, tu t'exposes toi-même à la contagion, gémissait la pauvre mère, et je ne pourrais supporter que tu prisses la lèpre. » Ces représentations n'eurent aucun effet, et la jeune fille tint bon jusqu'à la fin, quoiqu'une éruption suspecte se montrât sur ses mains. Et quant à la vieille Teca mourue, Catherine fit elle-même la toilette funèbre de ce cadavre hideux et l'enterra de ses propres mains. Mais lorsqu'elle se releva, après avoir jeté la dernière pelletée de terre sur la pauvre défunte, toute éruption avait disparu et ses mains étaient plus blanches et plus belles que jamais. De nos jours, il y a une ferme sur l'ancien emplacement de l'hôpital des Népreux. Une plaque de marbre incrustée dans le mur rappelle qu'en cet endroit s'élevait jadis Domus Sancti Lazari. De la porte de la ville, on s'y rend en 20 minutes, Mais de Fontebranda, en traversant Sienne, il faut une demi-heure. Et Catherine parcourait cette distance aller et retour 2 fois par jour. En faisant cette promenade, on dépasse des maisons, des villas, de vieilles églises, Santa Maria degli Angeli, avec son beau cloître, San Mami Liano, avec ses fresques et son tableau d'autel de Sano di Pietro, Santa Maria in Bethlehem. Ce n'est qu'en arrivant à San Lazzaro que la perspective s'élargit. De l'autre côté de la vallée verdoyante de vignes s'élève Santa Bonda, où un olivier se dresse sur le toit de l'église, ainsi qu'un panache sur un casque. Île monastérieux avec ses tours rouges et ses créneaux dentelés. Et là-bas, dans le lointain, Belcaro, qui sur sa colline boisée ressemble à une arche échouée. C'est le pays de Sainte-Catherine que l'on voit se dérouler. Souvent, elle a parcouru ses chemins en errant dans les vallées et sur les montagnes, seule ou suivie d'un groupe de disciples et d'amis. Et finalement, il vous semble qu'on pourrait rencontrer au début autour du chemin une petite forme grêle en habit noir et blanc, se hâtant au service de son époux et maître, et tandis qu'elle passe rapidement, vous regardant fixement de ses grands yeux noirs qui rayonnent dans son visage pâle. Soit dans le souffle du matin, soit dans la brise du soir, elle passe le long de la route, entre les grands oliviers dont toutes les branches argentées s'inclinent doucement et solennellement, et c'est comme si l'on entendait un faible murmure. Bénie soit celle qui vient au nom du Seigneur.